Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez le Libre Journal du vendredi soir, animé comme de coutume désormais par Lucien Rabouille. Nous sommes préenregistrés, bonjour pour ceux qui nous écoutent en direct, bonsoir pour ceux qui nous écouteraient la nuit en différé. Une question ce soir à l'occasion d'une parution d'une biographie. Comment devient-on Maurice Barrès? Comment passe-t-on de prince de la jeunesse, patriarche des lettres, super dandy, amant magnifique, avant-garde d'une jeunesse assoiffée de liberté, nourrie de la culture européenne du Paris cosmopolite du début du XXe siècle, à ce fameux écrivain proscrit? Marqué au fer rouge par l'antisémitisme, la récupération politique, sa réputation de rossignol du carnage pendant la Première Guerre mondiale, un lectorat finalement assez rare, pour ne rien dire des rééditions très lacunaires, très pauvres, de son absence de cursus universitaire ou dans les programmes scolaires. Comment devient-on Maurice Barrès? Je serai accompagné, pour répondre à cette question, de Michel Guéner. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes avocat et auteur, vous êtes biographe, essayiste. On vous doit plusieurs ouvrages, notamment une question, la mondialisation va-t-elle s'arrêter? Ou encore une question, un ouvrage sur la décision politique? Ou encore une biographie de Pierre Gide, une vie d'avocat? Ce soir, vous venez avec un travail au long cours, Maurice Barrès, le grand écrivain retrouvé. Comment devient-on Maurice Barrès? Comment passe-t-on du prince de la jeunesse au vieil académicien? Du dandy cosmopolite au prophète de l'enracinement? Du chantre du moi au théoricien des morts, des pères et de la transmission. De l'admirateur de l'Allemagne à l'écrivain de la revanche. Du lecteur de Hegel au défenseur des vieilles églises de France. Du déraciné au découvreur de l'enracinement. Du romantique des sensations au géographe des patries. Du séducteur de salon au député nationaliste de Lorraine. De l'homme qui cherche l'exaltation à celui qui cherche désormais l'unité nationale. Du voyageur qui réinvente Venise, Tolède ou Sparte au défenseur passionné de la Lorraine. Du maître admiré de Gide, de Proust, de Malraux, d'Aragon à l'écrivain proscrit des programmes scolaires. Du vivant couvert d'honneur à l'auteur dont les œuvres ne sont aujourd'hui plus rééditées, du monument national à l'écrivain maudit. Comment devient-on Maurice Barrès? Question assez ample, peut-être assez ambitieuse, la première, pas la plus simple.
Maurice Barrès, c'est un jeune homme né à Charmes, dans les Vosges, qui tout de suite se prend de passion pour la littérature. Et la littérature est pour lui un refuge et à la fois un horizon. Car il n'aime pas le collège, il n'aime pas le lycée. Et lire, pour lui, c'est déjà trouver avec les auteurs ses vrais compagnons de jeunesse, qui ne sont pas ses co-religionnaires des collèges et des lycées. C'est un refuge. Et puis c'est un horizon, parce qu'il sait que s'il écrit, il ira à la capitale. Et il va connaître ce chemin que tous les jeunes dandys du 19e siècle, du 20e siècle, ont connu. Ils partent de leur province et ils vont à Paris. Et donc, on est Maurice Barrès par la littérature tout au commencement et elle ne le quittera jamais, même s'il aura des engagements politiques qui vont nuire à son image de grand écrivain. Mais en tout cas, tous ses engagements politiques seront libellés avec une écriture parfaite. Il aura toujours le souci d'une écriture parfaite. On peut même dire qu'à la fin de sa vie, il était celui qui écrivait le mieux le français. D'ailleurs, certains critiques disaient « Si l'on veut une référence de la bonne phrase, on lit Barrès et on n'aura pas l'équivalent chez d'autres auteurs qui l'ont beaucoup, beaucoup aimé au début du XXe siècle. »
Une jeunesse lorraine, en effet, une formation au lycée. Vous nous dites, vous écrivez, que le tempérament se révèle déjà. Il se mêle assez mal aux casernes scolaires de notre République, à cet enseignement extrêmement exigeant, mais aussi extrêmement abstrait, quelque part assez asséchant. Ce Maurice Barrès se révèle finalement dans l'adversité intellectuelle dès le lycée.
Il est seul. Et cette solitude, c'est bloc contre bloc vis-à-vis de la société. Et donc, il sortira des années de collège et du lycée, pas révolté au sens « je vais tout détruire », mais révolté au sens « j'ai perdu des années et je veux aujourd'hui reconquérir ». Alors, la première reconquête, c'est l'écriture. Et Maurice Barrès entreprend, après quelques essais, il a créé une revue, « Les taches d'encre » qui n'ont pas marché, il a envoyé un manuscrit « Le départ dans la vie » qui n'a pas été pris, et il publie une trilogie, dont le premier titre est « Sous l'œil des barbares », le deuxième, Un homme libre, et le troisième, Le jardin de Bérénice. Dans cette trilogie, Barrès crée une sorte de discipline de vie pour la jeunesse de son temps. Et notamment dans Un homme libre, publié en 1889, là, Barrès s'impose à son temps. Parce que les jeunes qui avaient jusqu'à présent, la jeune génération qui avait jusqu'à présent fait sa formation avec le réalisme balzacien, le romantisme de Chateaubriand, voir les romans d'Anatole France, découvre un type de littérature totalement inédit, comme une espèce de bréviaire personnelle à portée de tout le monde. Et dans Un homme libre, particulièrement, le deuxième tome, Barrès écrit comme une discipline et à travers des conseils concrets donnés aux jeunes. Il dit « Il faut penser à l'exaltation de soi-même, car elle permet d'être indépendant, et surtout, il faut analyser ce qu'on est, ressentir. » Et ça, c'est la marque de Maurice Barrès. Dès le départ, elle ne va pas le quitter. Et si l'on veut retrouver Barrès aujourd'hui, il faut repartir de cette marque.
La littérature, le texte, nous y reviendrons. L'ouvrage regorge effectivement à la fois de commentaires et également de ce qui a pu être dit, de la façon dont les écrits ont pu être reçus. Mais vous nous expliquez que cette littérature forme à la fois une œuvre, mais également une éthique finalement. Une éthique de vie, une façon d'être au monde, une façon d'appartenir au monde. Précisément, puisqu'il s'agit d'une biographie, puisqu'il s'agit d'une personne, on vous lit, il s'invite dans la vie littéraire parisienne avec insolence. Qu'est-ce que c'est que ce jeune Barrès qui force la porte des salons, qui plaît, qui séduit? Les éditeurs ont peut-être envie de le voir, de le sentir, de le voir arriver à Paris comme un jeune homme de province ambitieux.
Vous savez quelle est sa force? C'est qu'il n'a été formé par aucune grande école. Jaurès a été normalien. Blum est normalien. Comme il s'est fait lui-même, il est forcément nourri d'une indépendance, d'une identité. Et comme il écrit et que c'est reçu, il devient effectivement un personnage insolent, dandy. C'est la définition du dandysme, qui a énormément imprégné toute une génération. Malraux, Drieu-La Rochelle, Aragon. Et si j'ose une confession, monsieur, moi-même, quand j'étais jeune. Et donc, on a été tous dandy, élevés à l'école de Barrès. Et on a aimé la distance à l'égard des autres. La marque d'une personnalité dans la société, tout en se pensant indépendant des moules qui formaient des gens préétablis. Voilà pourquoi je citais tout à l'heure Normal, parce que vous l'avez vu dans ma biographie, peut-être on en reparlera. Barrès va être en butte avec les normaliens de son temps, notamment Lucien R., le bibliothèque de l'école normale supérieure, et avec tous ceux qui prennent une mauvaise position à ses yeux. Durant l'affaire Dreyfus, alors qu'elle était une bonne position puisque il voulait clamer l'innocence indiscutable du capitaine Dreyfus, alors que Barrès poursuivait une logique politique, on en reparlera. Bref, il est insolent parce qu'il est indépendant, et il est insolent parce qu'il est porté par une ambition sans limite.
Est-ce qu'il reste quelque chose de ce dandysme plus tard dans le Barrès homme politique?
Oui. Oui, parce que en réalité, par exemple, quand il est élu député en 1889, député de Nancy, et puis il sera battu plusieurs fois et il sera réélu député, mais cette fois-ci dans la première circonscription de Paris, dans le quartier des Halles. Eh bien, il va à l'Assemblée, enfin, Chambre des députés à l'époque, pardon, et puis c'est pas un orateur, qu'il n'a pas la voix de Jaurès. Des grands orateurs de la Troisième République. Alors il se met à part, il a un crayon et il prend des notes, avec détachement, avec dandysme. Il est resté toujours ainsi, très habité littérairement de la façon avec laquelle il avait, dès le départ, engagé ses pas dans la vie parisienne. Jamais vous le verrez, homme d'appareil. Quand il est élu député en 1906, ou réélu député en 1906, il est toujours chez les non-inscrits. Vous ne le verrez jamais à la tête ou fondu dans un appareil politique. Il sera juste à la mort de Déroulette, président de la Ligue des Patriotes, mais c'est différent. Parce que là, c'est un combat qui lui tenait à cœur indiscutablement.
Pour revenir à la formation de cette part d'Andy, dont vous rappeliez tous les deux, avec fort à propos, qu'elle ne l'a jamais quittée finalement, il y a aussi, justement, plus concrètement, plus charnellement, ce mot que vous écrivez, Barrès plaît. Et il plaît notamment aux femmes, et qui apprécie de surcroît sa part féminine. Alors, le biographe interroge. Parce qu'on connaît effectivement ce Barrès vitupérant, on connaît ce Barrès de l'écume des marchés de Lorraine. On l'imagine faire campagne, on l'imagine chanter la guerre. On ne connaissait pas ce Barrès efféminé, ce Barrès dandy, ce Barrès séducteur, qui s'acoquine avec une Marguerite Emery qui publie Monsieur Vénès, un roman dont je crois qu'il raconte...
Vénus.
Monsieur Fémis, pardon. Donc, il raconte l'histoire d'une sorte de jeune aristocrate qui parvient à dominer un ouvrier féminin. Donc, il y a un Barrès qui est dans ce chaudron dans lequel on n'imagine pas du tout, finalement.
C'est le mystère de Barrès, réellement. En effet, on l'a catalogué et donc on l'a réduit. Et c'est ainsi qu'on l'a vite oublié. Et le pari de ma biographie a été, étape par étape de sa vie, de dire ce qu'il est. De dire ce qu'il est, je le répète, à chaque âge de sa vie, et comment il s'est construit et comment il est apparu. J'ai voulu faire renaître cela, de manière à ce que les lecteurs, et demain le plus large public, sur un auteur qui a énormément compté dans la formation de la langue française, voient que finalement, Barrès, ce n'est pas l'affaire Dreyfus, point. C'est autre chose. Alors, son rapport aux femmes est assez problématique à mes yeux. Je l'ai beaucoup questionné, interrogé, à travers des livres, à travers des lettres, et notamment, peut-être on en parlera, sa correspondance avec Anna de Noailles, qui est absolument magnifique, mais déroutante. Parce que, comme vous le dites fort justement à l'instant, comment l'homme installé dans un nationalisme assez conservateur peut-il doubler son ménage d'une passion sans limite à l'égard d'Anna de Noailles. Alors, pour Rachilde, qui est le pseudonyme sous lequel est écrit Monsieur Vénus, Barrès joue et s'amuse. Voilà. Ce qui est pire, c'est que quelques années plus tard, quand le livre sera réédité, avec le recul, Barrès le repréfacera. Donc il insiste. C'est la preuve que ce dandyse dont nous parlions à l'instant, il est pérenne. Il ne lui a pas tourné le dos une seule fois dans sa vie.
Et quant à sa part féminine, le mot interroge.
Écoutez, je pense que à 20 ans, on est dans l'époque un peu décadente, qu'on louait, chantait beaucoup d'écrivains. Je pense qu'il s'amuse. Est-ce qu'il a eu des relations au-delà des relations classiques que l'on connaît entre un homme et une femme? On n'ose plus dire d'ailleurs que ces relations sont classiques de nos jours. Il est possible de tout imaginer.
D'autant que ses relations, c'est vrai, ses passions avec Anna de Noailles ou encore avec ses correspondantes semblaient très cérébrales, finalement. Ce qui est une modalité de la passion, d'ailleurs, qui est tout à fait estimable.
Pas seulement. D'abord, parce qu'avant de se marier, notamment Rachilde et d'autres femmes que je cite dans mon Barrès, il a eu des relations avec elles. Puis il se marie. Il s'entendait bien avec son épouse. Et puis il y a Anna de Noailles. Alors,
sur lequel on reviendra un petit peu plus tard.
Ça tient au fait qu'il avait poursuivi une image de la femme qu'il avait envoûtée très jeune à travers les histoires que lui contait sa maman quand il était malade. C'est une autre clé, très bizarre. Mais pour Anna de Noailles, je déflore tout de suite le sujet, cher ami. Il a consommé.
Tardivement, mais tout le... Alors,
mieux vaut tard que jamais.
Certes. Ce Barrès dandy est aussi, on le découvre, un déraciné.
Oui.
Barrès lit Hegel. Barrès établit les phares de la culture occidentale, du côté allemand, du côté français,
oui,
du côté anglais. Ce Barrès baigne dans ce pari des correspondances européennes, ce pari du cosmopolitisme intellectuel qui était celui de la fin 19e, début 20e siècle. Et ce Barrès qui va se frotter à une pensée qui est pourtant une pensée de la pure abstraction, de l'accès à la réalité par le concept, qui est celle de la pensée allemande, ou encore une pensée instrumentale, qui est plutôt la pensée anglaise,
oui,
eh bien, très tardivement, c'est finalement quelqu'un qui exalte les réalités concrètes et qui nous explique qu'on ne peut accéder au vrai que par les petites choses. Alors, y a-t-il une contradiction ? Comment ce Barrès a-t-il pu, comme ça, frénétiquement, passer de la critique des chants guerriers de Monsieur Déroulède à cette exaltation d'un génie qui ne serait qu'un génie particulier, proprement franco-français, proprement local ?
Si vous me permettez de corriger un seul mot de ce que vous avez dit, je retire frénétiquement. Tout s'est fait progressivement et sagement. Comme vous le savez, puisque c'est assez central dans la formation de Maurice Barrès, au lycée, il a un professeur de philosophie, Auguste Burdeau, jeune normalien, très brillant, et kantien, et qui est dans la logique d'enseigner à ses étudiants que le monde est un, ou la Terre est plate, qu'il n'y a pas de spécificité régionale, nationale, Et c'est presque, si j'ose dire, la préfiguration du monde global d'aujourd'hui. Un monde qui nie les identités nationales, régionales ou locales. Il réagit d'abord à cela. Ensuite, comme il a conscience de ne pas fait d'études profondes comme Jaurès, qui a fait Normal, comme Léon Blum et d'autres, il étudie. Alors, il lit Hegel, il lit Marx. Et cette étude va l'aider à mûrir son raisonnement, sa façon de raisonner, et va l'amener donc à théoriser le nationalisme. Et alors, c'est pas du tout frénétique ni contradictoire. Il y a une progression. Il y a d'abord le choc avec le kantisme de son professeur de philosophie, puis la découverte d'une pensée allemande qui est tout de même fascinante. Et Barrès aimera Wagner aussi. Et puis, la formation progressivement de son nationalisme, essentiellement avec la valeur du déracinement.
Frénétique, puisque dans la préface de la colline inspirée, alors, et cette pensée s'est bien sûr nourrie de façon dialectique, et probablement Barrès n'aurait pas été l'homme qu'il est devenu s'il n'avait pas été confronté à cette pensée très grande, mais aussi très asséchante de la République. Mais on voit qu'il, enfin, il est assez critique. Dans la préface de la colline inspirée, il nous parle d'un rationalisme indigne de lui-même. On voit quand même le jeune homme qui a peut-être été blessé dans son désir de réalité concrète, dans son désir de terre lorraine, dans son désir de souvenir auquel ne répondait pas finalement la Troisième République, par-delà ses grandeurs.
Très vite, je reviens à Un homme libre. 1889, deuxième livre du culte du moi, celui qui lui crée la notoriété, qui fait démarrer son aura dans le siècle dernier. À la fin de ce livre, centré sur le culte de la personne, le culte du moi, il se promène dans le village d'Arouet, qui est un petit village au sud de Nancy, où il y a le très beau château d'Arouet, dont la famille propriétaire sont les Beauvaux Craon. Et il va, à la fin d'Un homme libre, il se promène dans Arouet, et il interpelle la Lorraine, en figure abstraite, et il lui dit « Que suis-je ici? Je ne suis rien, etc. » Et la Lorraine lui répond « Regarde tes racines, regarde d'où tu viens et tu sauras peut-être mieux ce que tu dois faire dans la vie. » Et c'est à la fin d'Un homme libre que la Lorraine est pour la première fois invitée à être une racine qu'il doit regarder, respecter et développer. Et je pense que c'est à la fin d'Un homme libre que l'on voit apparaître de première part l'enracinement, la valeur de l'enracinement qui sera centrale dans la philosophie politique.
Quoique jamais je n'ai servi la terre lorraine, j'entrevois au fond de moi les traits singuliers qui me viennent des vieux laboureurs. Gabriel Pinès.
Est-ce qu'il y a quand même des restes de cet intérêt premier pour la philosophie allemande dans le second Barrès, si on peut parler comme ça? J'imagine qu'il a renié Kant. Est-ce qu'il y a d'autres philosophes qui ont continué à compter d'une manière ou d'une autre ultérieurement?
Alors, il a conservé toute sa vie une grande admiration pour Goethe. Mais Goethe n'est pas un philosophe. Goethe est un écrivain. Je le disais à l'instant, il a admiré, mais un temps seulement, Wagner. Mais Wagner n'est pas un philosophe, c'est un musicien. Et durant la Première Guerre mondiale, quand il écrit son article quotidien à l'Écho de Paris, il s'en prend beaucoup aux Allemands, qu'il appelle les Boches. Donc, en réalité, à part le moment que l'on vient de traiter ensemble, de sa découverte et de sa lecture de Hegel et de Marx, Barrès s'en est assez éloigné.
Il est vrai, dans Un homme libre, premier principe, nous ne sommes jamais si heureux que dans l'exaltation. Le moi libre et affranchi cherche à exprimer tout ce qu'il peut relever finalement de la subjectivité. Subjectivité au sens passionnel, subjectivité au sens de ce qu'elle peut avoir de choquant, d'outrancier, d'expérimental aussi. Deuxième principe, ce qui augmente beaucoup le plaisir de l'exaltation, c'est de l'analyser. Et justement, Barrès est un homme qui s'analyse. Et on se demande si Gabriel Pinès rappelait avec fort à propos l'idée que les deux Barrès, la discussion entre les deux Barrès peut être un peu arbitraire. Puisqu'en s'analysant et en revenant dans le moi profond, ce Barrès finalement, qu'y a-t-il trouvé? Est-ce qu'il n'y a trouvé que le moi du moi, le moi du moi-même, l'hypersubjectivité? Peut-être qu'y a-t-il trouvé justement des éléments collectifs? Peut-être qu'il y a trouvé un être singulier, un être personnel, mais aussi un être social, ce qu'on n'ose plus appeler aujourd'hui une identité, justement, à force d'introspection.
Vous êtes très juste. Barrès ne s'est pas satisfait du moi. Il l'a mis au centre d'un homme libre, et effectivement, tout le monde l'a lu ainsi. de Gide à Proust, de Malraux à Aragon, de Drieux La Rochelle à Mauriac. Mais en réalité, très vite, et ça, moi je l'ai mesuré dans l'œuvre et dans la vie de Barrès, il y a un glissement de l'individualisme au nationalisme. Comme si l'individualisme, qui se cristallise sur le moi,
pouvait mener au nationalisme.
Pouvait mener au nationalisme parce que, en réalité, ce moi qu'il creuse, il l'enracine. Et l'enracinant, il l'ouvre à une terre. C'est la terre de ses parents, c'est la terre de la Lorraine, dans laquelle, d'ailleurs, à la fin de sa vie, il dira à son fils « Quand je mourrai, je veux être enterré là. » Voilà. Et non pas aller au Panthéon, comme beaucoup vont aujourd'hui par un président très commémoratif.
C'est d'ailleurs assez significatif que 10 ou 20 ans plus tard, la psychanalyse se questionne, se demande pour savoir si les inconscients sont personnels ou collectifs. On pense à la fameuse querelle Jung et Freud, et finalement la littérature anticipe quelque part cette querelle. Comme souvent, la littérature arrive à anticiper les grands renouvellements des sciences humaines ou des philosophies.
Barrès a indiscutablement un inconscient collectif, car quand il sort de sa phase d'égotisme pur, du moi, du culte du moi, il cherche à théoriser son nationalisme. Il arrive à le faire à travers la notion de racine, nous l'avons dit, et à partir de là, il restera toujours comme le chantre d'une identité de la nation, d'une identité de la nation à travers un héritage, celui de la terre et des morts. Et c'est l'expression « la terre et les morts » qui sera reprise en titre d'une conférence devant la Ligue des Patriotes où il développera sa théorie du nationalisme.
La liste des lecteurs de l'Homme libre, vous le rappelez, n'est pas négligeable. André Lee, André Gide, Marcel Proust, André Malraux, Pierre Drieu La Rochelle, Louis Aragon, Henri de Monterland, Paul Bourget, Henri Massis, Anatole France, Drieu La Rochelle. On goûte déjà la diversité des auteurs. Il y a absolument tout le monde. Anatole France qui était, comme chacun sait, proche du Parti communiste. Pierre Drieu La Rochelle qui, comme chacun sait, évoluera vers le fascisme. C'est un accueil qui est unanime. On ne peut pas forcément dire autant, je crois, du jardin de Bérénice. Vous parlez de la critique d'un certain maniérisme barésien. À la fin de ce culte du moi, est-ce qu'il ne s'est pas laissé aller à des facilités de style? Une préciosité un peu abusée.
Je pense que le troisième tome est sans doute d'abord pas l'égal du deuxième, alors que le deuxième dépasse indiscutablement le premier. Mais dans Le Jardin de Bérénice, il écrit d'une manière qui va influencer d'autres écrivains du XXe siècle. Et je cite une page qu'a lu un peu Proust, notamment à travers l'amour qu'a mon épouse pour... l'auteur de Du côté de chez Swann, il y a une page du Jardin de Bérénice qui est totalement proustienne, extrêmement maniérée, virevoltante, ne se terminant pas, et pleine de couleurs, avec le sens du phrasé barésien, c'est-à-dire les mots ne doivent pas exister dans une phrase. Il ne doit y avoir que des mouvements, des couleurs, des impressions. Vous savez que Barès très tôt s'est méfié de l'intelligence. Et quand Proust écrit contre Sainte-Beuve, sa première phrase c'est « Chaque jour, je m'éloigne de l'intelligence ». Et quand on me dit aujourd'hui que Barrès n'a jamais compté en filiation, en paire de filiation, de style et de morale sur Proust, on est une nouvelle fois dans l'oubli guindé, malvenu. Je m'en suis entretenu avec Jean-Yves Tadier, qui est le biographe de Proust, et Jean-Yves Tadier m'a très chaleureusement reconnu que les Proustiens avaient exagéré en ignorant l'influence de Barrès et se réjouissaient que dans mon livre, je la rappelais.
Gabriel Pinès.
Est-ce que le style de Barrès était conscientisé par lui-même? Est-ce qu'il l'a choisi? Est-ce qu'il l'a commenté? On connaît ses influences?
J'ai pas l'impression qu'on a en le lisant des fois quelque chose de très pensé, très, très calculé.
Il est, pour le coup, lui qui formera des talents, pas réellement imprégné, formé par des pairs. Dans Un homme libre, il appelle des intercesseurs, c'est-à-dire des maîtres en littérature avant lui qui auraient pu l'influencer. Il cite deux noms, Benjamin Constant et Jean-Jacques Rousseau. Il ne cite jamais réellement Chateaubriand. qui, quand il voyage en Grèce, parce que on sait aussi que Barrès a été un grand voyageur, était énervé de devoir toujours être dans les pas de Chateaubriand qui avait été en Grèce avant et qui avait raconté des pages et des pages de lui dans l'oubli, de lui en Grèce, de la Grèce en lui, etc. On connaît Chateaubriand parfaitement. Non, je pense que il a indiscutablement beaucoup aimé Benjamin Constant. Et je crois, alors pour avoir lu Bloom sur Barrès et d'autres auteurs, que Jean-Jacques Rousseau a beaucoup compté pour lui. Parce que quand vous lisez les confessions de Jean-Jacques Rousseau, vous avez quasiment des coupures de phrases, comme Barrès l'a fait. Ne pas oublier que l'invention stylistique de Barrès, c'est le sens de la coupure dans la phrase. Ce que n'a jamais eu Balzac, encore moins Zola, qui était un bavard, même en écrivant. Un écrivain non silencieux. Je pense que voilà, c'est comme ça que Barrès se forme et se crée, et qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on le relise à travers l'épais travail que j'ai réalisé.
Oui, c'est ce qu'on découvre en vous lisant à propos de la lecture de Rousseau. Rousseau qui, comme chacun sait, a fait l'objet de lectures politiques très différentes. On a beaucoup insisté sur le contrat social, on a beaucoup insisté sur l'inventeur de la modalité politique, de la volonté générale, du moi également, ce moi qui se regarde, l'être de l'être. Bon. Puis vous nous dites que Rousseau, c'est aussi... Enfin, Barrès, en tout cas, comprend que Rousseau, c'est autre chose. Une lecture qui n'est pas forcément si loin, d'ailleurs, de celle que fait Alain de Benoist aujourd'hui, je crois. C'est-à-dire qu'il y a un Rousseau qui n'est pas le prophète de la modernité, qui n'est pas le prophète, qui n'est pas un auteur des Lumières, qui est un auteur, justement, d'un moi hésitant, qui est un auteur, du doute sceptique, qui est un auteur qui n'est pas l'auteur du progrès, qui est un auteur de l'inquiétude, justement. Et Barrès le comprend, finalement.
Deux Rousseaux. Moi, je l'ai su dès le départ, pardon de le dire ainsi. Il y a le Rousseau de la littérature pure, celui qui écrit la nouvelle Héloïse, les différents discours. Et ce Rousseau-là, et les rêveries du promeneur solitaire, ce Rousseau-là, Barrès l'adore. Parce que c'est un Rousseau près de la nature, et c'est un Rousseau qui plonge l'individu dans la nature pour en tirer des merveilles de sentiments, d'analyse et de vraies richesses. À l'opposé, il y a un Rousseau politique, celui du contrat social, et qui effectivement invente un système politique, celui de la volonté générale, ou plus exactement de la réunion du peuple, dans une entité qui délègue à une communauté très générale, c'est le contrat. Et évidemment, c'est la source d'un totalitarisme que beaucoup d'analystes précieux de l'œuvre de Rousseau ont révélé depuis longtemps. Hein, Rousseau, il est ambivalent. Il est l'homme qui est merveilleux dans la septième rêverie du promeneur solitaire quand il se met en arrière de sa barque, qu'il laisse sa barque glisser sur le lac Léman. C'est le Rousseau romantique. C'est celui qui aimera tout le romantisme du 19e siècle. Et puis, le Rousseau du contrat social, c'est un Rousseau militant, politique, pré-stalinien, qui crée une totalité politique écrasante pour l'individu. Alors lui, pour le coup, si chez Barrès, il y a une évolution du moi au nationalisme, et on verra plus tard, du nationalisme au catholicisme, chez Rousseau, la dualité restera réelle, non fongible, toute sa vie.
Ce Barrès lecteur, effectivement, on le découvre avec Michel Guéner, il peut avoir des lucidités et des intuitions... C'est génial. On peut voir que ce Barrès du dandysme, ce Barrès des rêveries solitaires, ce Barrès de la préciosité, ce Barrès du moi, n'était pas peut-être aussi éloigné qu'on a pu le dire du Barrès de l'identité. On ne se surprendra pas donc en découvrant que, très tôt après les périodes parisiennes, ce Maurice Barrès se lance dans la politique et même dans l'action électorale. Certes, il écrit le culte du moi, certes, il fait preuve de dandysme, de maniérisme, mais le voilà qui, tout d'un coup, quitte les salons parisiens pour aller battre la campagne en Lorraine. Alors, essayez de nous raconter cette étrange aventure. Comment et pourquoi retourne-t-il en Lorraine ?
Je me suis de multiples fois posé la question. Il a 26 ans, 27 ans. Il est extrêmement jeune. Et il vient de triompher sur la place de Paris avec Un homme libre, admiré, je le répète, par toute une génération, dont vous avez cité les noms principaux. Et il se met en tête de rentrer dans une bataille électorale. Et il se présente dans une circonscription ouvrière, difficile, populaire, à Nancy, et il est élu plus jeune député de France. C'est-à-dire qu'à 27 ans, en 1889, Barrès est à la fois un écrivain réputé, admiré, couru, et le plus jeune député de la Chambre des députés. Et alors, il se fait élire sous une étiquette le général Boulanger, et là, on devient un peu désemparé, car on se demande comment un garçon à l'époque, qui a poussé l'exigence à si bien écrire, à si bien formuler ses idées, s'engage en politique pour défendre qui ? Le général Boulanger.
Une expérience que vous qualifiez d'étrange. Les auditeurs ne sont pas tous forcément familiers du détail de l'histoire politique de la République. Peut-être pouvez-vous rappeler ce qu'est cette expérience boulangiste et comment Barrès s'y inscrit ?
C'est très simple. La Troisième République balbutie. C'est un peu comme aujourd'hui. La République de la Cinquième République qui va mal. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois une impuissance politique que l'on ressent dans le pays, et puis il y a beaucoup de turpitude, il y a des scandales. Il y a le scandale du gendre du président de la République qui se fait rémunérer pour des remises de médailles. Il y a le scandale de Panama, où l'on découvre que pour acheter les voix de députés, eh bien, le conglomérat du Panama a... payer des journaux, dont celui de Clémenceau, les Chécards, et dont celui de Clémenceau, qui tombera politiquement à cause de ça. Le fameux Père la Victoire tombe de l'affaire du canal de Panama. Donc, ce régime politique aux abois, très mauvais, et qui d'ailleurs est en train de préparer la défaite française. Après 70, après le scandale et le désastre de Sedan, la France ne se rétablit pas. Et donc Barrès, qui a cet amour de la France, très inculqué par ses parents, il faut l'ajouter, eh bien, il estime que Boulanger, c'est le sauveur. Voilà. Donc, il défend le général Boulanger. C'est comme ça. Moi-même, quand j'écris ça, quand j'ai relu ça, c'est quand même très important, la place du général Boulanger dans le roman de l'énergie nationale, la grande deuxième trilogie de Barrès. Hein. Ben voilà. Et il va le défendre jusqu'au bout, en plus.
Oui, jusqu'à là. Oui.
Jusqu'au suicide du général Boulanger sur la tombe de sa maîtresse.
Marguerite de Bonnemort. Gabriel.
Quel est son rapport aux élites à l'époque ? Est-ce qu'il tombe dans un certain populisme où il va critiquer toutes les élites de manière uniforme ? Est-ce qu'il a gardé... une certaine subtilité intellectuelle. Quel est le passage de littérateur au politique à ce moment-là ?
Il n'a jamais été du parti des intellectuels ou du parti de l'élite, comme vous dites. Une expression qui apparaît plus tard, au XXe siècle. Lui, il a concilié ce dandisme et cet individualisme dont on a parlé avec... un engagement politique contre la Troisième République. En fait, et avec le recul, mais je sais que vous avez interrogé le biographe du général de Gaulle, on a échangé tous les deux sur le croisement de Gaulle-Barrès. Le vrai regret qu'on a, c'est que de Gaulle n'ait pas existé au temps de Barrès et que Barrès soit mort trop tôt pour ne pas connaître le vrai talent démarreur de Gaulle en son temps. Voilà. Donc, il a... franchement, il abhorre, il déteste la Troisième République, les combines. Mm. Je rappelle d'ailleurs que ça restera essentiellement la responsabilité du régime politique dans les premières années difficiles de la Première Guerre mondiale, que cette Troisième République, après la Première Guerre mondiale, elle va continuer avec ses facéties jusqu'à arriver et à négocier 1940 totalement désarmée. C'est la même histoire. Et donc Barrès, dès le départ, voit que ce régime politique est néfaste et prend appui sur la cause du général Boulanger pour le combattre.
Lorsque l'on fait de la politique, il faut être aussi très concret. Vous évoquez dans la biographie les thèmes sur lesquels il fait campagne, pour celle-ci ou pour une autre campagne électorale, je ne sais plus. Ils peuvent apparaître, par certains côtés, assez prophétiques et novateurs. Il y a l'idée protectionniste, par exemple. Oui. Il y a l'idée que les salaires non qualifiés, les petits salaires, sont en concurrence avec la main-d'œuvre étrangère. Pas d'idée plus actuelle aujourd'hui. Il va donc s'attacher à des réalités extrêmement concrètes, à des gens, à des visages, à des figures. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage. Est-ce que cette expérience électorale n'a pas nourri son style, ne l'a pas forcé à quitter une forme de maniérisme pour trouver un style à la fois plus oral, plus direct, plus efficace, plus théorique, et aussi s'attacher à des réalités concrètes, les gens qu'il défend, les gens qu'il rencontre ?
Le Barrès politique est d'abord un Barrès qui colle très très bien à l'électorat qui l'élit. Il faut savoir comment se passe l'élection de Nancy. Barrès est confronté à des notables qui s'opposent à lui. Il est dans une circonscription ouvrière, je l'ai déjà dit, mais il trouve le ton et il est élu. Alors ensuite, il sera battu plusieurs fois, une fois quand il se représentera à Nancy, et puis quand il arrivera à Boulogne-Biancourt, où il n'arrivera jamais à être élu. Il ne sera élu qu'en 1906 au quartier des Halles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Son expérience des campagnes électorales lui a appris beaucoup de choses, et peut-être une chose par-dessus tout, le respect et l'amour des pauvres. Barrès n'a jamais été, ça va vous apparaître curieux, il était plutôt fortuné personnellement. La maison de Maurice Barrès que j'ai visitée est une maison quand même de plus de 400 mètres carrés. Alors qu'il n'avait que un enfant qui est parti très tôt, il était quand même toujours très bien habillé. Il avait les dernières voitures. Je raconte l'anecdote quand il part en voiture avec un ami messin pour repérer le tournage de Colette Baudoche dans le Val Messin. Mais par-dessus tout, il n'est pas d'un parti. Noble, aristocrate, parisien. Ça l'amuse beaucoup. D'ailleurs, il verra plusieurs fois dans les salons parisiens Proust. Et là, il se faisait des clins d'œil, il s'amusait, parce que Proust restera très attaché à Barrès. D'ailleurs, quand Proust décédera, une année avant Barrès, Barrès sera là. Barrès sera là, très ému, parce qu'il aimait finalement Proust. Alors qu'il trouvait son écriture un peu compliquée, malgré tout. Mais il l'aimait, au fond de lui-même. De toute façon, Proust était quelqu'un d'extrêmement singulier et qui ne pouvait pas laisser indifférent. Il n'a jamais appartenu à la bourgeoisie française.
Oui.
Jamais.
Oui.
C'était pas un bourgeois.
Alors même qu'il en adopte assez facilement les codes, à la tribune, Barrès avait une gueule. Il portait beau. Vous le décrivez magistral dans ses gestes, dans son allure, ton hautain, ironique et dédaigneux, explique même André Gide. Alors sans vouloir faire effectivement la satire du parvenu lorrain monté à Paris, on voit que c'est quelqu'un qui quand même avait une espèce d'aisance mondaine, une espèce d'aisance oratoire, au point peut-être parfois, si on lit en tout cas les témoignages, de pouvoir exagérer une certaine préciosité, une certaine souci d'élégance.
Mais vous savez, je pense que c'est la bourgeoisie qui se reconnaît en lui plutôt que lui ne se reconnaît en elle.
Le tour de force est fabuleux, oui.
Il n'est pas bourgeois. Je ne peux pas vous dire autre chose. Il est très indépendant. En pleine affaire Dreyfus, tous les salons sont évidemment Dreyfusards. Il arrive, il s'assoit et il décline sa pensée, sa position, avec une indépendance d'esprit exceptionnelle. Quand il est député en 1906, son premier discours, c'est pour un officier qui a pris position dans l'affaire Dreyfus. Et d'ailleurs, Proust écrira une lettre à Anna de Noailles pour lui dire « J'ai admiré une nouvelle fois Barrès qui a eu le courage, en pleine assemblée, quand il revenait à la Chambre des députés, de revenir sur l'affaire Dreyfus et de défendre ce militaire qui avait pris une position contre le capitaine Dreyfus. » Non, Barrès reste un homme libre. Et d'ailleurs, cette liberté, souvent, il la puise en sortant de Paris, en sortant de France,
oui,
en voyageant.
Un point sur lequel on reviendra. En tout cas, il se notabilise. Sans forcément adopter les codes bourgeois, sans forcément s'embourgeoiser, c'est quelqu'un qui est assez reconnu. Vous nous racontez une scène assez étonnante, presque irréelle, lorsque Verlaine lui dit « Vous voilà député ». On l'imagine entre deux absinthes en train de commenter l'actualité parlementaire. Justement, ce Maurice Barrès, alors, comme on l'a dit, côtoie le milieu littéraire, déjà commence quand même à se frotter au grand. Il y a, par exemple, cette polémique sur laquelle vous revenez abondamment avec Ernest Renan, qui est pourtant la figure absolue de l'intelligence française à la fin du XIXe siècle. Et puis il y a, pour y venir enfin, une scène que vous racontez de façon assez précise, de façon assez détaillée, sur son mariage, justement. Barrès se marie, Anne-Claire Luxer, 18 juillet 91, et à son mariage, on a l'impression qu'il y a tout le monde, ouais. Vraiment.
Alors que, je le répète...
Fort, Poincaré, Déroulède, Moréa, Hérédia, Copé, Charles Maurras, alors, la fameuse Gip aussi,
alors, il est,
auteur
il est,
un peu oublié.
Absolument, il est, quand il se marie, il est l'auteur d'Un homme libre, l'auteur du culte du moi, donc il a une célébrité littéraire naissante, et il est député, plus jeune député de France. Donc forcément, les politiques regardent qui est Barrès, et ils vont à ce mariage, effectivement. Et d'ailleurs... Ce mariage va faire que les Barrésiens, souvent, feront des pèlerinages dans l'église où il s'est marié, dans le 5e arrondissement de Paris. Voilà, Barrès a choisi cette voie. Mais il ne s'est pas notabilisé. Je pense qu'il s'est marié par amour. Après, la gestion du ménage, je l'ai un peu creusé à travers des correspondances et des carnets. C'est Madame Barrès qui gère tout. Hein.
Oui.
Oui, c'est Madame Barrès qui gère tout, qui va acheter le château de Mirabeau, qui tolère un certain temps la relation avec Anna Noailles, mais pas trop, et qui, quand Maurice Barrès décède, va, avec son fils, contribuer à la publication des cahiers qui devaient constituer ces fameux mémoires que l'on aura attendu, mais qui n'aura pas pu écrire parce qu'il est mort trop tôt.
Activité politique. Activité mondaine, activité également journalistique. Il y avait un journal, je crois, qui s'appelait La Cocarde.
Oui.
Qui a été repris. Qu'est-ce que La Cocarde?
C'est un journal qu'il crée, qu'il a géré 9 mois, parce qu'après il était pris par l'écriture des Déracinés, et dans lequel il a eu des correspondants, des journalistes prestigieux. Il y a eu Maurras, il y a eu Colette.
Colette et Maurras, oui, on imagine assez mal.
Vous imaginez, et tout ça chez Barrès. Et là, pendant 9 mois, il écrit sur l'université, le destin, etc. Il aimait beaucoup l'écriture. Vous savez, Barrès écrivait tous les jours. Ce qui, évidemment, amène parfois à des erreurs de caricature quand on écrit tous les jours. Mais déjà, vous le savez... Malraux s'étonnait que Mauriac écrive toutes les semaines dans l'Express. Donc, comment Barrès pouvait-il écrire tous les jours? Il écrivait tous les jours. Alors, évidemment, il y avait des jours de relâche, si j'ose dire. C'était ce Barrès-là qui, progressivement, rayonnait dans la vie littéraire. Alors, pourquoi tout ce monde a ce mariage? Parce que, quand il se marie, il est un talent identifié, oui, tant en littérature qu'en politique.
Le prince de la jeunesse, oui.
Le prince de la jeunesse, c'est son ami Adam de Nancy, qui sera député de Nancy lui aussi, mais dans une circonscription bourgeoise, plus simple, à conquérir, et qui lui donne ce titre un soir au Quartier Latin.
Il y a l'œuvre qui atteint, à ce moment-là, une certaine maturité de pensée et de style. On trouve un Déraciné qui invente le thème de l'enracinement. Un Déraciné parti... de Lorraine à Paris, pour y trouver effectivement une culture cosmopolite. Il y a cet ouvrage qui est fondateur dans l'œuvre barrésienne, et qui est aussi sans doute fondateur pour une génération, on y reviendra, les fameux Déracinés. L'histoire d'une génération va donc s'inscrire dans celle d'un régime et n'en départira pas et sera sa réplique, écrivez-vous. Les fameux 7, François Sturel, Henri Galland, Maurice, Georges Suret-Lefort, ouais. Honoré Racadeau, Antoine Mouchefrin, Alfred Renaudin et le professeur Cancien, l'affreux Bouteiller. Alors, un roman politique, un roman de formation, on pourrait dire beaucoup de choses sur les Déracinés, sur sa forme, sur ce choix d'avoir plusieurs personnages au lieu d'un, sur ce cycle justement dans le temps. On verra ce qu'a pu inspirer les Déracinés. Peut-être pouvez-vous vous-même, en tant que biographe et en tant que lecteur, nous dire l'effet que vous a fait les Déracinés, finalement, et la place qu'il occupe dans la vie et dans l'œuvre de Barrès.
Les Déracinés, c'est un vrai roman. Et Barrès qu'on a souvent lu à travers des ouvrages plutôt de critiques, des ouvrages politiques, pamphlétaires, des ouvrages qui correspondaient à des engagements militants, je pense à la défense des églises, à la défense des laboratoires à la fin de sa vie. Là, il écrit un vrai roman. Un roman qui a des personnages, a une intrigue, a un commencement et une fin, et met en scène la naissance du nationalisme barésien. Et cette notion de déraciner, elle va être très forte. Elle provoque une première cassure chez les admirateurs de Barrès. Les jeunes barésiens, toujours l'équipe Gide, Blum, Lucien R. et d'autres, à ce moment-là, prennent leur distance. Parce qu'ils considèrent que les déracinés ne s'inscrivent pas dans la continuité du culte du moi. Ils considèrent que les déracinés, c'est quoi ? C'est l'apologie des terres contre l'universalisme. Et pour un Gide, et qui pense universalisme, alors qu'il deviendra à la fois communiste et membre de l'Action française, mais peu importe, pour un Gide et pour tant d'autres, c'est invraisemblable d'être nationaliste à une époque où l'universalisme, va dominer intellectuellement, quitte à se verser dans des internationalismes, notamment socialistes et communistes. Là, il y a une première césure, et c'est, je pense, à travers la réception des déracinés que l'on voit un premier groupe d'admirateurs qui prend ses distances à l'égard de Barrès.
Est-ce que ce roman ne tombe pas dans le roman à thèse ?
Je ne le crois pas, parce que, je le répète, il y a des personnages, il y a une intrigue, forcément, en arrière-plan, il y a le théâtre de scandale. D'ailleurs, les deux tomes qui vont suivre le roman de l'énergie nationale parleront des scandales. Mais je ne le crois pas. Et Léon Blum, qui a fait une critique très, très élogieuse des déracinés, il y a vu au contraire un très beau livre. C'est à cette occasion que Léon Blum dit « Je veux croire que Émile Zola est un grand écrivain, mais si Émile Zola n'avait pas existé, la littérature française serait la même. À l'opposé, si Barrès n'avait pas existé, la littérature française ne serait pas la même. » Ça, c'est la critique par Léon Blum des déracinés qui l'amène à écrire cela. On n'est pas dans un roman à thèse. On n'est pas dans un roman...
Un roman à thèse, mais en tout cas des caractères bien identifiables, et qui n'ont peut-être pas la complexité de personnages qui peuvent apparaître plus tard dans le XXe siècle, effectivement, et avec parfois, c'est vrai, des paragraphes où l'on rappelle bien ce que l'on veut dire, Barrès ayant quand même beaucoup pensé et beaucoup théorisé ce qu'il était en train de faire, chose qu'on ne voit pas, par exemple, dans l'accueil d'inspiré, où là, les choses se marient de façon peut-être plus élégante, mais en même temps, les déracinés sont aussi un laboratoire pour Maurice Barrès, ils sont aussi une étape dans la composition.
Il fallait que Barrès, dans les déracinés, montre bien les caractères qui allaient se perdre à Paris.
Donc, voilà, les trois, notamment. Durel, Saint-Flin et Rome, que j'arrive pas à prononcer, mais Rome, je suis pas sûr.
Moi, je suis marre. Non, il a la nécessité de bien décrire les caractères qui vont se perdre. Donc peut-être qu'il y a effectivement de la description un peu figée. Tout se lit dans une forme d'intrigue très forte. Moi, j'ai lu Les Déracinés. J'avais 23 ans. Et j'ai aujourd'hui 70 ans. Et j'ai un souvenir extrêmement précis. J'ai relu Déraciné, notamment pour la biographie, puisque j'ai tout relu Barrès pour la biographie. Le livre a une vraie animation romanesque, je trouve, personnellement.
Et un parfum d'époque, puisqu'on a effectivement cette bourgeoisie rentière de la terre, qui a disparu, puisque la terre ne rapporte plus et ne vaut plus rien.
Mais c'est le personnage de Saint-Flin.
Voilà, très présent.
Son grand ami Stanislas de Guetta, ouais, absolument.
On oublie que si la France a été aussi vivace intellectuellement, s'il y a une littérature, c'est aussi parce qu'il y avait toute cette population de rentiers de la terre, que les gens ne supportaient plus d'ailleurs, et qui est décrit, je crois, comme une espèce de morgue insensible devant tout l'ouvrage, où parfois perce un peu l'humour. Puis on a des personnages de tête brûlée, de tête dure, le fameux Sturel, notamment, qui est un personnage...
François Sturel, qui est le personnage Maurice Barrès dans Les Déracinés.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité. sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Effectivement, ce roman s'inscrit dans un cycle, le cycle Énergie Nationale. Et Barrès n'a pas chômé. Lorsqu'il était parlementaire, il a probablement puisé toute sa matière romanesque. Il y a un ouvrage qui est un peu en annexe, déraciné, L'Or Figure, justement. Où là, c'est un roman qui n'est pas d'une facture classique. Il est assez rare dans les romans de tomber sur des personnages historiques, vivants, ayant vécu. Les Rénacles, etc. Et là, on les trouve tout le temps. On trouve des personnages qui sont au milieu de la grande histoire, justement. Et là, c'est une audace, pour le coup. L'Or Figure, comédie parlementaire. Ça fait un peu penser, par certains côtés, à Sa Majesté Eugène Roujon de Émile Zola. Est-ce vraiment un roman, finalement, que la satire de ce qu'il a vu, avec quelques prétextes de fiction?
C'est toujours pareil. Il y a une intrigue, il y a un commencement, une fin, il y a une ambiance. Un roman, c'est pas qu'une histoire, c'est aussi une ambiance. Et là, pour le coup, dans leur figure, on voit quelle est l'ambiance du scandale de Panama. On voit les tchécards, on voit les types apeurés, les financiers qui ont peur, qui fuient. Il y a une description de la mort de Reynard qui est saisissante.
Oui, oui.
Et qui est d'une plume romanesque exceptionnelle. Exceptionnelle. On le voit vraiment. Bon, alors. Évidemment, avec des travers que l'on connaît chez Barrès, mais quand même très, très bien décrite.
Et puis, un roman de génération, puisque c'est toute cette génération, on la verra se séparer, effectivement. Je crois que c'est ce que vous écrivez. On verra des gens qui partiront monarchistes après le début du XXe. On aura des gens qui partiront communistes dans le sillage de J.D. Aragon. On aura des fascistes, et puis on aura des gaullistes, finalement. Cette génération éclatée, cette génération bouillonnante qui explose complètement au XXe siècle.
Génération qui procède de la déception que lui procure la Troisième République. Tout part de là. C'est Barrès qui met en scène la déception de la Troisième République à travers, vous l'avez dit fort bien, les déracinés et leurs figures. Et les jeunes qui admirent Barrès prennent à mot comptant la description de la Troisième République et vont effectivement s'en séparer. Les grands écrivains qui vont naître à cette époque ne seront pas des républicains Troisième République.
Un chapitre de l'ouvrage s'intitule « Le dépassement du nationalisme ». Il y a ce roman de l'enracinement, il y a ce roman de la terre et des morts, puis il y a aussi un Barrès que l'on découvre, un Barrès voyageur. Les écrivains en France ont d'étranges pouvoirs. Custine a réussi notamment à lancer une Russie arriérée et autocratique. Voltaire et Montesquieu ont lancé sur le marché de la carte postale une Angleterre tolérante et perfectionnée. Tocqueville, on le sait, a lancé la jeune République américaine. Stendhal, une Italie sauvagement romantique. Et puis, il y a Barrès qui lance des lieux. Il lance Tolède, il lance Venise. Vous nous dites que parfois, certains lieux, aujourd'hui prisés par les touristes, doivent tout à leur succès commercial à Maurice Barrès. Maurice Barrès aurait mis en tourisme Venise, justement.
Alors, ce qui se passe, c'est que Barrès aime voyager. C'est la preuve qu'il n'est pas un notable parisien qui passe ses week-ends en Normandie. Il aime voyager. Il aime voyager et il aime l'Orient, pour les raisons qu'on a rappelées, la lecture de Richard Cœur de Lion par sa maman quand il était tout jeune, malade, dans son lit, qui a créé un imaginaire de l'Orient qui lui restera très cher. Quand il découvre Venise, Venise n'est pas aimée.
Oui.
Je ne dirais pas que Venise est ignorée, je dirais que Venise n'est pas aimée. Et notamment, Zola, l'Italien, n'aime pas Venise. Il n'écrira jamais sur Venise, Zola. Puis quand il va à Tolède, dans les rues de Tolède, il est peut-être le premier Européen à s'intéresser aux nombreuses œuvres du Gréco qui sont présentes dans toutes les églises de Tolède. Où d'ailleurs, il voit un mélange très cosmopolite, où il y a toutes les religions, toutes les opinions qui sont fondues. Et puis quand il va en Grèce, alors là, il prend le contre-pied des voyageurs classiques de la Grèce, puisque dans Chateaubriand que Byron ont magnifié Athènes, ils sont restés admiratifs de l'acropole. alors que lui n'aime pas Athènes, puisqu'il y voit ce rationalisme occidental qu'il n'aime pas, et il aimera alors
Sparte,
parce que c'est une ville guerrière, et il est totalement, à cette époque, dans la logique d'une défense de la France face à l'Allemagne, d'une défense de l'armée. C'est au nom de l'armée qu'il a pris le faux pas de l'affaire Dreyfus. Il n'aurait pas eu à défendre l'armée, il n'aurait jamais pris la position qu'il a pris durant l'affaire Dreyfus. Donc c'est un Barrès aimant l'arme, au sens le plus positif du terme, c'est-à-dire qui défend une nation, qui lui fait aimer Sparte. Mais ce que notamment a reconnu le biographe d'André Gide, Jean Delay, c'est que Barrès invente, à travers sa visite de Venise, de Tolède, de Sparte, invente une façon de commenter les paysages dans lesquels il est, et il fait de ces paysages des personnes avec lesquelles il parle. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Malraux dira que le Barrès qu'il a le plus formé, c'est le Barrès voyageur.
Oui, les lieux s'animent, finalement. Voilà, oui. Les lieux sont des personnes.
Voilà.
Au même titre que la France est une personne, dépassement du nationalisme, la Lorraine le devient, Tolède le devient, Venise le devient.
Alors que la littérature de voyage était une littérature un peu...
contemplative.
Contemplative, et puis surtout d'exagération romantique. Je ne rappelle pas l'itinéraire de Jérusalem écrit par François René, qui est magnifique, mais qui parle plus de Chateaubriand que d'Athènes ou de la Grèce.
Vous avez parlé de romantisme, je voulais rebondir justement sur Goethe, sur les voyages des romantiques en Europe, Lord Byron en Grèce. Quelle est l'influence est-ce qu'il y a une influence intellectuelle des romantiques, très concrètement, ou est-ce qu'il ressemble à un romantique, en fait, par lui-même?
Il y a du romantisme chez Barrès, et qui va rester pérenne dans son écriture, constante dans son écriture, mais il ne se classe pas dans une école romantique, parce qu'il est, je crois, beaucoup trop réaliste, avec cette valeur de l'enracinement. Il n'a jamais cherché la solitude par défi total à l'égard de la société, au contraire, et on va le voir arriver quand la Première Guerre mondiale éclate, comme un homme responsable, les pieds sur terre, loin de toute apologie du romantisme ou d'abstraction, et pour le coup, extrêmement concret, comme peu de romantiques le seront dans la suite de leur vie.
Alors, il ne se classe pas dans l'école romantique. On a peine à le rattacher d'ailleurs à une école existante. Par contre, il en lance et il en invente. On découvre au fil de la discussion ce Barrès du culte du moi, ce Barrès du dandysme, ce Barrès de ce que vous appeliez le roman à thèse, en tout cas un roman qui est certes assez cérébral et assez réflexif, ce Barrès du voyage, ce Barrès des lieux. On a l'impression que si on prend les grands courants littéraires du XXe siècle et si on prend les grandes innovations romanesques du XXe siècle, Barrès a comme tout inventé. Prenons-les une à une. Prenons par exemple ce culte du moi, qui rencontre effectivement un succès considérable auprès d'une jeune génération intellectuelle qui cherche de nouveaux modèles. Barrès y propose une véritable méthode de vie, cultiver sa sensibilité, voire son hypersensibilité, comme vous l'écrivez. Rechercher les émotions les plus intenses, surtout les plus intenses. Observer ses propres réactions, les analyser. Faire de ses explorations intérieures une œuvre. Pour beaucoup de jeunes lecteurs, il devient alors moins un romancier qu'un véritable guide spirituel. Et son influence est considérable. On peut dire que Proust, Valéry, Monterland, André Gide, tous doivent finalement quelque chose à cette exaltation du moi barésien. Et c'est une veine qui est quand même très importante dans la littérature du XXe siècle.
C'est plus une influence qu'une école. Ce qu'il écrit va influencer ceux qui vont écrire après lui. Il ne crée pas une école avec des codes. C'est pas André Breton. C'est pas Émile Zola. C'est pas Honoré de Balzac. Parce que son écriture, ce sont des livres, qui peuvent plaire ou déplaire, qui en tout cas à chaque fois se saisissent de sujets, mais que chaque lecteur peut se réapproprier le plus librement. Il n'est pas dogmatique. Il est quand même curieux de pouvoir vous affirmer ce soir que celui qui a inventé le nationalisme n'était pas dogmatique. Non, parce que le nationalisme, pour lui, c'était une réalité tangible, inscrite dans des références concrètes, je le répète à la terre et aux morts, c'est-à-dire aux ancêtres, aux aïeux, au aux parents, au sens le plus large du terme, tel était Barrès.
Il y a donc effectivement ce Barrès qui, à défaut de fonder une école, du moins inspire une nouvelle sensibilité littéraire, beaucoup plus personnelle, beaucoup plus subjective, puis il en inspire d'autres. Tout ce qu'on appelle effectivement le roman à thèse, le roman d'idées, le roman engagé. Comment ne pas voir dans les Déracinés une préfiguration ? Comment ne pas voir dans les Déracinés une préfiguration de Malraux et de Jean-Paul Sartre, finalement ?
Je suis d'accord avec vous, je pense que ils ont... Alors, les Déracinés, après Un homme libre, a été un grand succès littéraire en son temps. Là, pour le coup, j'ai cité dans ma biographie tous les auteurs qui avaient lu Un homme libre, parce que j'ai vu dans leurs œuvres qu'ils faisaient référence à Un homme libre. J'aurais pu citer aussi ceux qui ont lu Les Déracinés. Et ils sont nombreux. Il est clair que cette notion de l'engagement politique, qui va devenir un leitmotiv de l'intellectuel au XXe siècle, Les Déracinés en sont comme une œuvre formatrice. Alors, Malraux, mais aussi Aragon, Drieu-La Rochelle par-dessus tout. Quant à Sartre, Sartre sera très ingrat, puisqu'on sait que Sartre a forgé une école philosophique à travers l'existentialisme, dont l'axiome principal est « il faut exister ». Alors que Barrès, je cite dans ma biographie, a des phrases sur l'existence de soi-même qui sont quasiment sartriennes. Mais bon, encore une fois, Sartre, c'est comme Gide. Ce sont des gens qui se reconnaissent sans père et qui pensent former une école en rupture de tout ce qui les ont marqués préalablement. On sait qu'il maltraitera Barrès dans ses premiers romans, mais ça n'a aucune importance.
Et puis, avec cette influence qu'il a pu avoir sur donc, des héritiers plutôt ingrats, il y a une troisième influence que l'on peut discerner de Maurice Barrès dans le sillage de l'enracinement. Tout ce roman régionaliste, tout ce roman folklorique, alors il serait peut-être un peu injuste de réduire Jean Giono à cette seule perspective, mais enfin, on lit Colline, on lit tout le cycle provençal de Jean Giono, on a cette capacité à faire d'ouvriers rapides, de ce que vous appelez la pauvreté humaine, une réalité romanesque. Et avant Barrès, est-ce qu'on a vraiment tant d'exemples que ça ? Est-ce qu'on a vraiment tant de jalons que ça ? Alors, un petit peu, c'est vrai, dans la littérature symboliste du XXe.
On a au XIXe siècle, Georges Sand, on a...
Arnaud de Rivoli.
On a aussi pas mal d'ouvrages en campagne de Balzac. Mais vous avez raison de dire que lui présente une campagne dénudée, avec des hommes et des femmes qui existent comme individus, comme ce n'était pas exactement fait ou écrit ou représenté au XIXe siècle.
On avait besoin du surnaturel, que ce soit chez Sand, chez Barbey de Réveilly, on avait besoin d'un bruissement de merveilleux, mais là on n'a pas, on présente les gens tels qu'ils sont.
Absolument.
Voilà. Et ce qui sera le cas chez Jean Giono. Donc on a quand même les trois topics les plus centraux, les plus importants de la littérature française du XXe, dont on trouve chez Barrès une préfiguration. Il est central dans l'histoire littéraire en France. Aussi, son oubli nous semble absolument incompréhensible. On ne comprend pas que l'on ignore que Barrès est à ce point, sinon tout inventé, du moins quand même pas mal de choses. Et pour le comprendre, il y a effectivement, c'est peut-être la dernière partie de notre échange, qui concerne le roman noir, alors non pas au sens de Georges Simenon, mais le roman noir de Maurice Barrès. Il y a déjà ce nationalisme qu'on a pu décrire, qui est peut-être un peu moins exalté, un peu moins frénétique, un peu moins chauvin, un peu moins cocardier, qui s'est nourri quand même de plusieurs apports, mais qui a quand même mauvaise presse. Un nationalisme qui est d'abord conçu comme une grande amitié, une amitié française. À la Société des lecteurs de Maurice Barrès, l'académicien Daniel Rondeau devait expliquer qu'avec Barrès, l'on pouvait envisager la France comme la terre de l'amitié. Certains historiens présents dans la salle jugeaient que c'était un portrait un peu optimiste de l'histoire de France du 19e et du 20e siècle. Mais enfin, c'est un nationalisme d'affection, comme l'écrira Simone Veil, peut-être plus qu'un nationalisme de revanche, quoique le terme s'imposait par les circonstances de l'époque. Mais surtout, on a l'affaire. On a l'affaire Dreyfus. Et alors là, le dossier est chargé. Barrès aurait presque sacrifié sa réputation et sa postérité littéraire pour le goût d'un bon mot. C'est terrible. Perspective effrayante.
Non. Pour le goût, pour le choix d'un mauvais parti. Le bon mot se déduit d'un parti. Il n'est
bon
pas
mot qu'on peut rappeler aux auditeurs. Oui.
Rappelez-le.
Que Dreyfus soit coupable, je le conclus de sa race. Oui. Un mot qui est terrible, a posteriori.
C'est un mot qui est terrible. Mais d'abord, le parti est terrible. Quand éclate l'affaire Dreyfus, tout le monde est convaincu que Dreyfus est coupable. C'est une juridiction militaire qui le juge. Personne n'a de raison de douter de l'impartialité d'une juridiction militaire. D'ailleurs, quand sa culpabilité présumée est écrite dans les journaux, commentée, les grands tribuns de l'époque sont anti-Dreyfusard, et notamment Jaurès et Clémenceau. Clémenceau demande la tête de Dreyfus à la Chambre des députés. À ce moment-là, Barrès n'a pas pris encore position. Il perçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident dans la culpabilité de Dreyfus. J'ai analysé ce moment avec beaucoup, beaucoup d'exigence. Donc je parle, si je puis dire, avec un peu d'autorité sur le sujet. Barrès hésite. Et puis, il sait qu'en arrière-fond, il y a deux camps. Il y a un camp qui défend l'innocence du capitaine Dreyfus et il y a un camp qui veut défendre l'armée. Parce que on est dans une période où, du côté de l'Allemagne, ça commence à se renforcer. On a quitté Sedan il y a à peine 25 ans, 30 ans. Et que va-t-il se passer avec l'Allemagne? Est-ce qu'on peut fragiliser l'armée à l'occasion de ce conflit? Un jour, Barrès reçoit la visite de Léon Blum, jeune barrésien, qui se dit, je l'ai lu dans ses journaux, qui se dit, puisqu'on l'a toujours suivi, maintenant, il peut au moins nous suivre pour une fois. Et donc, il vient lui demander, Émile Zola vient d'écrire un article, est mis en difficulté, et Léon Blum demande à Barrès d'écrire un papier soutenant Émile Zola. Barrès dit, merci beaucoup. Alors, Barrès faisait sa leçon d'escrime quotidienne. Ça lui permettait d'affûter à la fois sa ligne et son style. Et voilà, le véritable encore héritage du dandysme. Toujours soigner sa ligne. Et Léon Blum lui parle, donc il pose l'épée, il l'écoute et il lui dit « Je vous reviendrai ». Barrès réfléchit et il écrit à Blum « Ma réflexion est faite, je ne peux pas écrire une défense d'Émile Zola. D'ailleurs, il nuit au sujet qu'il défend par sa brutalité. Et je prendrai le parti de l'armée contre votre Dreyfus. » Et là, la rupture se fait, à ce moment-là. Et comme Barrès rentre dans une polémique qui est extrêmement violente et qui sera presque la polémique cristallisante toutes les polémiques de l'histoire de France jusqu'à nos jours, car tous les grands schismes du débat intellectuel et politique français auront comme origine l'affaire Dreyfus. Soit on est dans le camp du bien, soit on est dans le camp du mal. Camp du bien, ben c'est la justice. Aujourd'hui, c'est les migrants. Et puis le camp du mal, ben, c'est l'injustice. Et aujourd'hui, c'est certaines régions politiques du monde, en géopolitique moderne, etc. Tout part de l'affaire Dreyfus. Et lui considère qu'il est de son devoir de défendre l'ordre, l'armée, face à Dreyfus. Et pas tant face à Dreyfus que face aux Dreyfusards, qui instrumentalisent l'affaire pour faire effectivement un débat qui en rajoute sur l'instabilité du pays. Alors déjà que la Troisième République n'est pas solide, que la Troisième République a un personnel politique défaillant, que l'affaire Boulanger, on l'oublie, on est en train de l'oublier. Mais pourquoi? Pour revoir apparaître des combinards, des chécards. Déjà que la France est fragile, faut-il encore, c'est la dernière institution solide, saccager l'armée? Il dit non. Et d'ailleurs, il écrit un article et sa mère lui écrira qu'elle a lu son article à son père et qu'elle était très fière de la position qu'il avait adoptée. Donc presque sa famille adopte sa position. Mais pas par antisémitisme primaire, pas parce que Dreyfus est juif. D'abord et avant tout parce que Dreyfus a provoqué une crise dans le pays qui l'accuse du seul fait de cette crise provoquée par l'affaire elle-même. Après, le mot qu'il a, c'est la facilité de l'écriture. Qui n'a pas, ayant la plume facile, souvent eu des travers discutables? Pour moi, l'antisémitisme de Barrès se résume et se limite à l'affaire Dreyfus.
On en trouve assez peu de traces ailleurs, il est vrai. Et même finalement une rédemption. Les familles spirituelles de la France ont un texte admirable où il loue le sacrifice israélite dans les tranchées.
Exact.
Avec des figures de grands rabbins français ou de juifs français qui sont des figures enamourées. Comme souvent avec Barrès, il faut des personnes, il faut des visages, il les trouve finalement dans les anciens combattants.
Mais nos modernes l'ignorent. Nos modernes veulent rester sur la phrase que vous avez citée et veulent s'en satisfaire définitivement. Le musée de la Shoah à Paris récemment a fait une exposition sur Dreyfus. Je suis allé la voir avec mon épouse. Quel a été mon étonnement quand j'ai surpris dans une petite armoire avec une plaque de verre, deux phrases citées qui représentaient l'antisémitisme à l'époque, une phrase d'Édouard Drumont et une phrase de Maurice Barrès. Et j'ai écrit au mémorial de la Shoah pour lui dire que l'exposition était formidable, mais que d'avoir mis côte à côte Barrès et Drumont était injuste et inexact. Car Drumont a écrit La France juive, qui était un best-seller en son temps, mais était d'un antisémitisme, là, pour le coup, génétique, si j'ose dire, absolu, ce qui n'était pas le cas de Barrès. Le mémorial de la Shoah, à qui j'ai écrit, ne m'a jamais répondu.
Alors même qu'il y a eu un acte de rédemption et presque de contrition dont vous retrouvez la trace, il aurait écrit notamment à Lyautey « Eh bien, mon sentiment, c'est que nous sommes des criminels de ne pas avoir exigé la révision après le faux d'entrée. »
Il ne l'a pas aurait, il a écrit, il a reconnu. C'est authentique.
C'est assez rare, tout de même. Oui.
C'est authentique. Et alors, ce qui existe, c'est que... et ça, c'est très bizarre, parce que les intellectuels, Gide, Malraux et tout ça, ont très vite oublié l'affaire Dreyfus, en fait. C'est ça, les gens le mesurent très mal. Gide pensait à autre chose, et puis tous les écrivains de l'entre-deux-guerres ne sont pas revenus sur l'affaire Dreyfus. En fait, c'est une gauche militante qui, dans la deuxième moitié du XXe siècle, surtout avec les preuves de la Shoah, et puis surtout après... les quelques années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, s'est focalisé sur tout ce qui avait été de près ou de loin associé à l'antisémitisme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand 1945 survient, l'attention est d'abord portée sur le bourreau, pas la victime. D'où le procès de Nuremberg, etc. Et c'est seulement 10-15 années après, avec la recherche des criminels nazis, que l'on voit apparaître toute une intelligentsia, une culture, une écriture de dénonciation de l'antisémitisme. Et on rattrape Barrès comme étant un des fondateurs de cette école, alors que c'est vraiment une phrase accidentelle, un combat de circonstances où l'on mettait en équilibre, en balance, l'ordre public et l'injustice faite à un homme, ni plus ni moins.
Puis c'est une théologie assez étrange de voir l'affaire Dreyfus où la moitié de la France a quand même pris position pour un capitaine israélite, ce qui aurait été impensable partout ailleurs en Europe, et où à ce moment-là, la France apparaît presque pour les Juifs d'Europe de l'Est comme étant Israël, ce que raconte, préfiguration d'Israël, ce que raconte Romain Gary dans La promesse de l'aube, et où même les anti-Dreyfusards les plus forcenés comme Maurice Barrès finiront finalement par admettre leur faute. Donc faire de l'affaire Dreyfus une préfiguration de la Shoah, c'est un contresens, puisque la France apparaît finalement... C'est le titre d'un ouvrage de l'époque, « Heureux comme Dieu en France », et Barrès dira exactement la même chose dans les familles spirituelles.
Il faut être honnête et rappeler que au moment où l'affaire éclate, de nombreux juifs français seront très déstabilisés. Oui. Particulièrement Proust, qui ira confesser à Jacques-Émile Blanche que la position qu'a adoptée Barrès le choque et le peine considérablement. Parce que, confesse Proust, lui estimait qu'il était véritablement français. Sans aucune réserve. On n'allait pas l'exclure du pacte français parce qu'il était juif. Et il a découvert à ce moment-là qu'une certaine accusation publique pouvait le mettre à côté, et ça a commencé là. C'est pour ça que l'affaire Dreyfus, elle a malgré tout généré quelque chose de comme un poison dans la société française, dont on n'était d'ailleurs pas sorti, parce qu'aujourd'hui, l'antisémitisme renaît violemment dans notre société. Et là, pour le coup, il n'est ni littéraire, ni de droite.
Et vous rappelez d'ailleurs des prémices de l'antisémitisme de gauche, en citant des phrases que tout le monde a pardonnées de Jean Jaurès, ni plus ni moins à la Chambre, qui était authentiquement antisémite.
Il y a des phrases de Jaurès qui sont terrifiantes, alors qu'il était pour...
Et que personne ne cite, oui.
L'international socialiste.
Les
avez-vous
en tête ?
Oui, c'est l'idée que, je cite, la race juive avait une dilection particulière pour les manipulations d'argent, c'était au moment de l'affaire de Panama.
Ouais, pour le capitalisme.
Il nous faut avancer et conclure l'émission. Barrès a une autre légende noire, qui est justement son attitude pendant la Première Guerre mondiale. Mérite-t-il, pour le dire simplement, la réputation que lui avait faite, je crois, Romain Rolland, de rossignol du carnage ?
Bah écoutez, arrive la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est très menaçante, et les élites se taisent, fuient. Soit elles sont pacifiques, et elles sont de gauche, toutes pacifiques, même à essayer de nouer des accords avec... les socialistes allemands, soit elles sont apatrides. Il y a le personnage de Proust, le baron de Charlus, dont Proust explique qu'en réalité, vis-à-vis de l'allemand durant la Première Guerre mondiale, il ne s'estime pas français, donc il ne s'estime pas appartenir à une patrie. Et Barrès, en fait, en 1914, il est seul. Il est seul et à la fois, il va être avec tous. Ça va être le miracle de la chronique de la Grande Guerre. Son livre, qu'il publie après la Première Guerre mondiale, c'est une collection d'articles qu'il rédige jour après jour dans l'Écho de Paris, où il parle de la tragédie de la Première Guerre mondiale, mais vraiment jour après jour. Et il prend une dimension considérable. À côté de cela, les moqueries, les pinceries de Romain Rolland apparaissent dérisoires. Sans le combat de la France en 14-18, jamais la France n'aurait récupéré l'Alsace et la Lorraine. Car M. Romain Rolland est en Suisse, c'est pratique d'être en Suisse, et depuis la Suisse, de s'estimer, ouvrez les guillemets, au-dessus de la mêlée. Il fallait se battre. Et Barrès le fait avec sa plume, parce que, comme il a plus de 40 ans, il ne peut pas combattre dans les tranchées. Et il le fait en rendant hommage à tous ceux qui se battent. Et il y a notamment un article qu'il écrit en septembre 1914, quand il apprend la mort de Charles Péguy. Il décrit cette mort dans les champs du combat. Et c'est un des articles les plus émouvants, les plus forts, les plus sensibles de la phrase barrésienne. Nous sommes en 1914. Barrès écrit avec toujours une force d'émotion communicative à ses lecteurs.
Vient l'épilogue. Au moment de s'approcher de la pente finale, Barrès, avec qui on avait fait une réputation depuis les jardins de Ronce légèrement païenne, se voit défenseur du christianisme, d'abord des chrétiens d'Orient, et puis de la grande pitié des églises de France. Il y a comme une phase du Barrès vieillissant qui serait presque une phase de conversion, finalement.
Barrès, comme nous le disions au commencement de notre entretien, a nourri toujours un goût de l'Orient. On a cité ses voyages à Venise, Tolède et Sparte, mais on peut citer aussi le beau voyage qu'il fait juste avant la Première Guerre mondiale, quand il va en Égypte et au Liban, jusqu'aux portes de la Turquie. Barrès a cultivé cet amour de l'Orient comme un dépassement de tout ce qu'il avait connu jusqu'à présent, mais pas un reniement. Je le répète, Barrès procède par dépassement, pas par effacement. Il ne se renie pas. Gide à côté, Gide va être communiste, il se reniera, le retour de Moscou. Gide va adhérer à l'Action française, il se reniera, puisqu'il sera pour l'universalisme ou contre la monarchie. Barrès ne s'est jamais renié. Ce sont des dépassements. Et parmi ces dépassements, il y a l'Orient, le goût de l'Orient, incarné par une femme, Ada de Noailles.
Et le goût des chrétiens d'Orient, si j'ose dire.
Oui, absolument. Mais c'est à l'occasion du voyage qu'il fait en Orient, juste avant la Première Guerre mondiale, qu'il visite les congrégations françaises au Liban. Et d'ailleurs, il relève, il en rendra compte à la Chambre des députés. Ce sera le dernier débat qu'il aura avec Jaurès, avant que Jaurès ne soit assassiné. Il rendra compte à la Chambre des députés de son voyage dans les congrégations religieuses, et il dira à la Chambre des députés, n'oubliez pas que dans les terres d'Orient, la France est attendue, aimée, et que la France ne doit pas quitter ses terres. Et il voit d'ailleurs, on est en 1913, 1914, il voit d'ailleurs que l'Allemagne est très présente dans ses terres et que l'Allemagne est en train d'acquérir une influence au détriment de l'influence de la France. Alors il parle de ça et il a un dernier échange avec Jaurès. Jaurès lui dit « Mais vous critiquez l'Allemagne. Si l'Allemagne triomphe, c'est qu'elle est forte économiquement et c'est normal que l'économie la plus forte l'emporte comme influence déterminante. » Et on voit l'influence marxiste de Jaurès. Quand on est économiquement fort, on peut dominer politiquement. Ce à quoi Barrès répond avec franchise et force, que c'est évidemment inacceptable pour un Français d'imaginer abandonner l'influence qu'a notre pays en terre d'Orient.
Avec cette attention effectivement aux congrégations religieuses, aux chrétiens d'Orient, à l'influence française en Orient, qui est une grande œuvre finalement française depuis Napoléon III, et puis plus près de chez nous, un ouvrage, je crois, un petit livre, La Grande Pitié des Églises de France, justement, auquel vous réservez une place assez importante. On a presque l'impression que Barrès est le réinventeur, peut-être, du patrimoine en France.
Mais en effet, parce qu'il a voulu que, au lendemain de la séparation des Églises et de l'État, en 1905, il est élu député en 1906. La loi de séparation du petit père Combes est de 1905. Donc quand il arrive, sa première préoccupation comme député, c'est d'éplucher un peu les rapports sur le retour de la séparation des Églises et de l'État. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'en réalité, les Églises sont abandonnées. Et qu'en fait, aux enchères, des communes de gauche vendent des chasubles, des croix, des biens de l'Église sans vergogne. Alors, il s'en indigne. Il va voir le ministre de l'Intérieur, le très pâle Aristide Briand, et Aristide Briand lui confesse, eh bien, on a été piégé. Parce qu'on croyait, dans la loi de 1905, avec la séparation des Églises et de l'État, que les Églises s'auto-administreraient. Et en fait, le pape de l'époque refuse la formation d'associations cultuelles, et ça tue la loi de 1905. Ce qui gêne énormément Aristide Briand, et d'ailleurs, tous les leaders de la gauche, dans cette période où Barrès intervient beaucoup, c'est le début de sa période de député de 1906, lui donnent raison. Barrès n'est pas seul sur ce plan, parce que tout le monde reconnaît qu'effectivement, les Églises, elles sont au cœur du patrimoine culturel de la France. Il a cette vision-là. Malraux sera critique là-dessus, ou ironique. Il dira, mais qu'est-ce qu'il est allé défendre les Églises de France, alors qu'on a des cathédrales? Eh bien justement, c'était des cathédrales en miniature, mais elle n'en était pas moins des instruments patrimoniaux de la religion catholique la mieux incarnée.
Puisqu'il faut conclure, il y a ce Barrès des amours, il y a ce Barrès des grands combats, il y a ce Barrès de l'invention littéraire, il y a ce Barrès qui est sacré patriarche, je crois, après la Première Guerre mondiale, quelques années avant sa mort, qui est foudroyante, une mort qui est brutale d'ailleurs et qui sidère le monde, enfin qui sidère en tout cas la France entière. Et puis il y a ce Barrès qui est aujourd'hui largement oublié. Un des grands intérêts de la biographie de Michel Guéner, outre tous ces aspects que nous avons pu évoquer, outre cette surprise biographique qu'est la liaison avec Anna Donoaille, outre ce regard assez vaste sur l'histoire des idées, croisé effectivement aux grandes influences de l'époque, c'est de remonter la généalogie de la légende noire et de l'oubli de Barrès. L'oubli de Barrès apparaît finalement presque comme une préméditation. Il y a des étapes, il y a Camus, il y a des vacheries, il y a des mots qui sont distillés, il y a les ingratitudes des uns et des autres. Il y a cette légende noire, cette réduction à quelques mots, quelques phrases, et il y a finalement un auteur qui n'est presque pas réédité aujourd'hui, qui est absent des cursus scolaires, qui est absent des cursus universitaires, puisqu'il faut conclure. Comment expliquer et peut-être comment conjurer aussi cette situation?
L'expliquer, je pense qu'on l'a mesuré dans notre entretien. Il a pris une succession de positions qui l'ont coupé de ses soutiens.
Personne pour se battre à sa bord, donc oui.
Comment le conjurer? J'ai pris parti dans ses biographies, à la différence d'autres biographies de Maurice Barrès, d'avoir un angle très pédagogique sur les étapes de sa vie. En fait, le but de cette biographie, c'est de faire découvrir une vie, étape après étape, de manière à ce que chacun comprenne que Barrès ne se réduit pas à une problématique politique, à une mauvaise position durant l'affaire Dreyfus, mais est un homme qui est à la fois admiré par J.D. Proust, qui soutient Verlaine à la fin de sa vie, alors que Verlaine est dans un état de décrépitude totale, qui lance Peggy, qui n'arrive pas à exister sur le plan littéraire, qui reçoit Mauriac, qui encourage Drieux-La Rochelle et le jeune Martin Dugard. Et étape par étape, je souhaite contribuer par cette biographie à la connaissance d'un personnage complexe, mais formidablement uni, parce que correspondant peut-être de toute sa vie à une seule passion, celle de la littérature au service de son pays.
Et ce sera le mot de la fin. Chers auditeurs, à dans un mois, que Dieu vous garde.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lucien Rabouille, assisté de Gabriel Pinès. Émission préenregistrée le 24 juin 2026 et diffusée pour la première fois vendredi 10 juillet 2026 de 19h30 à 21h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir l'enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.